Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Aujourd'hui, nous accueillons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes le lundi 21 mars 2022 et nous enregistrons donc cette émission pour Radio Présence et pour Radio Lapourdi. Et nous saluons à tous les auditeurs et les auditrices de ces deux radios. Nous sommes avec Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour Violaine.
Bonjour à tous.
Alors Monseigneur Marc Ayé, nous allons commencer par cette actualité douloureuse qu'est la guerre en Ukraine. Le pape François, hier lors de l'Angélus, a dénoncé une guerre d'agression contre l'Ukraine qui est inhumaine et sacrilège. Alors vous, vous suivez bien sûr l'actualité comme tout un chacun. Quelle est votre perception de cette guerre en Ukraine ?
Vous savez, moi je n'ai pas une perception autorisée sur cette guerre. Comme nous tous, bien, je suis au courant de cette guerre par les médias hein, qui relaient un certain nombre d'images, un certain nombre d'analyses, de tractations. Et je n'ai pas assez de recul, certainement, pour comprendre ce qui se passe. Car la guerre en elle-même, de toute façon, est toujours mauvaise. Hein. Je pense que l'Église s'est engagée depuis longtemps dans ce qu'on appelle la sauvegarde de la paix, à tout prix, et qui consiste nécessairement à donner le conseil aux grands de ce monde d'éviter la guerre. Hein. On se rappelle les paroles extrêmement poignantes du pape Paul VI en 1964 à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, disant « plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre ». Et c'est vrai que les papes, à leur suite, ont toujours rappelé cette vérité. Je me souviens que le pape Jean-Paul II, en particulier, lors de l'agression de l'Irak par les États-Unis, avait condamné hein, cette guerre profondément injuste. Que le pape condamne la guerre en Ukraine me semble tout à fait élémentaire. Hein, parce que qu'est-ce que c'est que la guerre ? Ben, c'est forcément, si ça n'était que des objectifs militaires et si ça n'était que des armées qui se combattent, on pourrait encore comprendre, dans certaines limites qui méritent d'être définies, en principe, et appliquer au cas concret ce que je ne saurais pas tout à fait faire, oui, mais sauf que la guerre, nécessairement, va impacter des populations civiles, va jeter sur les routes des familles, des enfants, va provoquer des exodes et des situations de profonde injustice. Hein, et donc, nécessairement, la guerre est une chose qu'il faut éviter à tout prix.
C'est pas ce que dit le patriarche orthodoxe de Russie qui a soutenu...
Alors j'ai entendu en effet qu'il avait soutenu l'agression, hein, alors que lui ne l'appelle pas agression, puisque je crois qu'il l'appelle opération militaire spéciale, enfin qu'importe.
Il reprend les termes de Vladimir Poutine.
Tout à fait, en Ukraine. Donc non, mais en effet, ça n'engage que lui, hein, le patriarche Kirill, ça n'engage que lui. Donc je sais d'ailleurs qu'une bonne partie des orthodoxes ukrainiens qui sont restés fidèles au patriarche Kirill, donc au patriarcat de Moscou, alors qu'une partie donc, des orthodoxes russes, enfin, qui appartenaient au patriarcat de Moscou, se sont séparés et constitués en église autocéphale sous la juridiction, on pourrait dire, du patriarche écuménique de Constantinople, eh bien, n'approuve pas les positions du patriarche Kirill. Donc ça crée un peu plus, évidemment, de division.
Beaucoup de responsables religieux ont pris la parole. Bon, on vient de parler du patriarche Kirill, mais les évêques de France aussi ont publié,
oui,
par la voix d'Éric de Moulin-Beaufort, un communiqué avec le responsable de l'Église protestante unie de France, le pasteur Claire Voly. Je pense que toutes ces déclarations, vous les suivez.
Ben on les a retransmises hein, sur le site diocésain. Et moi, j'ai appelé, comme l'a fait le pape, à la prière pour l'ensemble des populations impactées par cette guerre, de manière à ce que nous ayons au moins l'arme de la prière.
Et c'est donc, incroyable quand même qu'au XXIe siècle, ce soit de nouveau une guerre entre chrétiens.
Oui, c'est vrai, entre populations chrétiennes, mais bon, les chefs d'État sont-ils de part et d'autre complètement chrétiens? C'est une chose qui mérite peut-être d'être soulignée. Les populations sont chrétiennes, mais est-ce que les chefs d'État le sont? Je ne sonde pas les reins et les cœurs.
Vous, quand vous aviez été en Russie, je crois en 2014,
c'est 2014, ça oui.
Comment vous avez perçu, peut-être déjà à l'époque, les germes de ce conflit ou pas du tout?
Moi, non. Moi, je n'étais pas du tout parti à Moscou pour des raisons politiques. Hein, comme vous savez, je partais à la rencontre des orthodoxes russes sur le segment, si je puis dire, particulier de la pastorale familiale hein, et de la vie. Et j'avais d'ailleurs commencé ma visite par une rencontre avec le nonce apostolique, hein, dont la nonciature avait été établie et rétablie par le pape Benoît XVI, et avec l'archevêque catholique de Moscou, qui m'avait simplement encouragé à ces démarches informelles avec les orthodoxes russes. Donc c'était une rencontre, un voyage qui n'avait absolument rien, évidemment, de politique.
À Biarritz, il y a une communauté russe assez importante, des orthodoxes. Est-ce que vous êtes en lien avec eux?
Comment... Complètement, oui, j'ai eu au téléphone
plusieurs
fois.
Sont-ils un peu déboussolés, j'imagine?
J'ai eu au téléphone plusieurs fois le père Georges Ashkov, hein, qui va d'ailleurs me présenter dans quelques jours, l'archevêque orthodoxe, qui est l'ordinaire hein, de tous les chrétiens orthodoxes russes, mais qui sont restés sous la coupe du patriarche de Constantinople, comme ceux de Biarritz.
Dans la presse locale, on a pu lire que vous aviez mis à disposition la chapelle aux icônes de Cambo à un groupe dissident de cette église orthodoxe de Biarritz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu?
Oui, alors en fait, ce n'est pas un groupe dissident. C'est qu'il y a donc 2 ou 3 ans, j'ai été interpellé par les orthodoxes qui veulent être affiliés au patriarcat de Moscou, car vous savez que c'est une question qui a été posée à tous les orthodoxes russes de France, qui jusqu'à présent étaient sous la coupe d'un ordinaire qui dépendait directement du patriarcat de Constantinople. Hein, on sait que c'est au moment de l'Union soviétique, et donc de l'ingérence du Parti communiste dans l'orthodoxie russe, que les orthodoxes qui sont venus en Europe, et en particulier en France, ont voulu se mettre sous la protection du patriarche de Constantinople. Les choses semblant évoluer, il était posé comme question à tous ces orthodoxes russes présents en France de savoir s'ils voulaient rester sous la protection du patriarche de Constantinople ou rejoindre le patriarche de Moscou. Et la moitié des communautés paroissiales orthodoxes russes ont opté pour rester sous le patriarcat de Constantinople et d'autres pour être rattachés au patriarcat de Moscou. Donc, tout ça s'est fait à travers des votes en interne de ces communautés à la majorité. Il se trouve qu'ici, à Biarritz, la majorité a voté pour rester sous le patriarcat de Constantinople et un certain nombre voulaient se rattacher à Moscou. C'est la raison pour laquelle ces fidèles m'ont demandé si un prêtre orthodoxe d'une paroisse de Paris, hein, pouvaient venir une fois par mois leur célébrer la divine liturgie pour qu'ils ne soient pas complètement exclus d'une prière liturgique puisqu'ils ne voulaient pas, ils n'acceptaient pas la décision prise par la majorité de leur communauté de Biarritz. J'ai évidemment fait ça en lien avec le père Georges Ashkov, qui est le curé de la paroisse orthodoxe, en disant, voilà, moi je ne veux pas que ça se passe, nous avons de très bons contacts avec vous, c'est vous que nous reconnaissons en premier, comme orthodoxe russe, ici dans le diocèse, mais est-ce que vous croyez qu'il est possible? Elle dit, bien sûr, il n'y a aucune difficulté pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de la divine liturgie. C'est la raison pour laquelle on a cherché un lieu et on a demandé donc à utiliser cette chapelle des icônes qui se trouve à Cambo, voilà, où ils se réunissent une fois par mois.
Donc c'est un beau signe œcuménique.
Vous savez, moi, il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Ce n'est pas parce que le patriarche Kirill à Moscou prend des positions de collusion avec le pouvoir politique de Poutine qu'on doit empêcher des fidèles orthodoxes qui n'ont rien à voir avec tout ça, de continuer à prier dans leur liturgie et dans leur langue. dans un rite qui est reconnu et dans une église qui est reconnue en France. Et que je sache, l'archevêque de Paris, enfin en tout cas l'administrateur apostolique, n'a pas fermé toutes les paroisses orthodoxes russes de Paris.
Alors vendredi 25 mars, ce sera le jour de l'Annonciation et le pape François a prévu de consacrer au cœur immaculé de Marie l'Ukraine et la Russie, un geste fort auquel notre diocèse, comme tous les évêques du monde, vous allez vous y associer.
Tout à fait. C'est une chose assez magnifique. Vous savez que c'est une demande de Notre-Dame à Fatima, donc c'est en lien direct avec la demande de Notre-Dame à Fatima, qui a été rendue publique en 1942 par Sœur Lucie, qui était la survivante des voyants de Fatima. Et c'est d'ailleurs le deuxième secret de Fatima, où la Vierge Marie dit qu'il faut consacrer la Russie, que le pape doit le faire en communion avec tous les évêques du monde, et recommander la dévotion de la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Le pape a donc décidé le 25 mars, au cours d'une liturgie pénitentielle qui était déjà prévue, d'insérer cet acte de consécration. Et nous avons reçu les évêques des différents pays, en tout cas nous par le nonce apostolique à Paris, l'annonce que le pape désirait que tous les évêques s'y associent de manière publique. Et nous attendons dans les prochains jours la prière de consécration qui va nous être donnée. Et donc j'ai demandé à directeur de la communication d'indiquer sur le site diocésain que je m'associerai de manière publique le vendredi 25 mars, jour de l'Annonciation du Seigneur, à l'heure où le pape nous demande de nous y associer, où il fera lui-même cet acte à Rome, à Saint-Pierre de Rome, donc à 17h, à la cathédrale, au cours d'un chapelet que je méditerai ce jour-là.
Dernière question, Monseigneur Hayet, sur la guerre en Ukraine. La solidarité est en marche dans notre diocèse. Beaucoup d'associations acheminent des produits en Ukraine. Pour l'accueil des réfugiés, c'est vrai que beaucoup de familles proposent d'accueillir des réfugiés chez elles. Est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé au niveau du diocèse ? À qui est-ce qu'il faut s'adresser ?
Non, pour l'instant, on n'a pas été sollicité et nous n'avons rien d'organisé au niveau du diocèse. Je sais que les collectivités locales sont sur le pied de guerre, c'est le cas de dire, puisque ici à Bayonne, il y a des infrastructures qui sont mises à disposition. Donc je sais qu'il y a des initiatives qui se créent, plutôt des personnes particulières, des fidèles. Il y en a même qui sont partis jusque là-bas en voiture pour ramener une famille de réfugiés. Je crois que c'est à Urune ou à Hendaye, je ne sais plus.
Et au niveau des paroisses, il y a aussi chacun.
Chacun gère comme il peut selon les sollicitations concrètes qui sont faites.
Nous retrouvons notre évêque dans quelques instants.
Le 24 février dernier, l'armée russe est entrée en Ukraine, obligeant les habitants à fuir les bombardements et l'avancée des troupes. Ils ont abandonné leur pays et toute leur vie derrière eux et se retrouvent aujourd'hui dans une situation d'urgence absolue. Le Secours catholique soutient et apporte son aide à la fois en Ukraine, mais aussi en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, et plus généralement partout où nous pourrons accompagner les victimes de ce conflit. Nous mettons tout en œuvre pour venir en aide aux personnes impactées par le conflit, et nous avons besoin de votre soutien fraternel pour répondre à leur détresse. Chaque don est essentiel. Pour nous aider à faire face à cette immense mission, faites un don pour l'Ukraine dès maintenant, sur www.secours-catholique.org.
Radio Lapordi.
Monseigneur Hayet, nous continuons avec vous cette émission où nous allons aussi parler d'un événement qui va toucher la France bientôt, c'est l'élection présidentielle et les élections législatives. Comment est-ce que vous percevez la campagne qui se déroule malgré l'actualité en Ukraine ? Est-ce que les bons sujets sont abordés ? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette campagne présidentielle ?
D'abord, c'est un enjeu, évidemment, d'élection présidentielle. C'est un enjeu important pour notre pays, et c'est un lieu d'exercice de la démocratie participative, comme l'on dit. Et c'est une manière aussi pour tous les citoyens d'exercer leur participation libre et éclairée aux destinées de leur pays et donc à la recherche du bien commun. Mais il faut quand même dire que cette campagne est un peu mal partie et qu'elle est un peu écrasée. D'abord, elle a été écrasée par la persistance de la crise sanitaire et des restrictions qui allaient avec elle, et puis qui ont été levées par miracle à l'approche des élections présidentielles, et puis aussi écrasées aujourd'hui évidemment par ce conflit international qui, enfin ce conflit russo-ukrainien qui évidemment impacte l'ensemble de l'Europe et du monde. Donc j'ai l'impression que cette campagne est souvent un peu inaudible, que des candidats cherchent à débattre, à présenter leur programme, font des meetings dont les médias évidemment se rendent compte. La campagne officielle n'étant pas commencée évidemment, puisqu'on sait que c'est 15 jours avant le premier tour des élections. Le président de la République, qui est lui-même candidat, est tellement occupé sur le front de la politique internationale, en plus avec la présidence de l'Union européenne.
Il est venu à Pau quand même tout récemment.
C'est vrai, il paraît, oui. Je ne m'en suis pas tout à fait aperçu, mais, parce que nous sommes à Bayonne. Mais bon, voilà, qui n'est pas tout à fait décidé à entrer en débat avec les autres candidats. On a l'impression que les élections sont pliées et que la dimension un peu démocratique risque d'être aussi un peu abîmée par les événements qui impactent en ce moment.
Vous regrettez cette absence de débat, donc ?
Forcément, puisque je pense que c'est important qu'un président en exercice qui se présente à nouveau au suffrage de ses concitoyens puisse aussi présenter un bilan de ces 5 années.
Pour vous, quel serait le bilan que vous feriez de ces 5 années du président Macron ? On sait qu'à travers vos prises de position, vous n'avez pas été souvent d'accord, notamment...
Je ne suis certainement pas un grand défenseur, par définition, du président Macron, ne serait-ce que par les avancées terrifiantes des lois bioéthiques, et donc de l'impact que ça a sur le respect de la vie, depuis son commencement jusqu'à son terme. On peut dire que là, on a un président qui a accéléré le processus de la culture de mort, qui est dénoncé par l'Église de manière habituelle et qui s'apprête encore à accélérer le processus avec le débat sur l'euthanasie qui va certainement s'inviter dans les prochains mois, et la GPA, et puis aussi cette déclaration assez foudroyante en prenant sa charge de président de l'Union européenne, par lequel il a revendiqué le droit à l'avortement comme devant être inscrit comme une priorité dans la charte fondamentale des droits de l'homme. On a beau dire ce qu'on veut, mais pour moi ça reste un socle important de la vie sociale. Comme le disait Saint Jean-Paul II, le droit à la vie est le fondement de tous les droits de l'homme que la recherche du bien commun invite évidemment à respecter, en particulier pour que tous les citoyens soient... le bien commun concerne tous les citoyens, à commencer par les plus petits, les plus vulnérables. Donc c'est évident que mon jugement, pas sur l'homme, mais sur la politique qui était menée, est évidemment extrêmement négatif et sévère.
L'espérance ne déçoit pas, c'est le titre d'un document publié par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France à l'approche des élections. Alors, je crois que tous les évêques n'ont pas été associés à ce document. C'est le Conseil permanent qui l'a publié. Donc, est-ce que vous y adhérez et qu'est-ce que vous pouvez nous dire résumé de son contenu ?
On adhère forcément parce que, d'abord, ce n'est pas la Conférence des évêques de France qui publie ce document, en effet. Vous avez raison de le souligner. Ce sont les évêques du Conseil permanent qui proposent une réflexion sur les enjeux des élections présidentielles prochaines et qui font un peu un élinco de points fondamentaux qui ressortent à la doctrine sociale de l'Église. Donc on ne peut pas ne pas adhérer à ce document parce que, au fond, tout y est dit de manière très simple et, j'allais dire, pas très factuelle. Je dirais que ce sont des pieuses affirmations qui correspondent à notre conception de la vie sociale et politique, inspirée par la foi et l'enseignement de l'Église, sur des thèmes sur lesquels, évidemment, on n'est pas surpris de voir l'Église se prononcer, comme la sauvegarde de la paix, comme évidemment le respect inconditionnel de toute vie humaine, la question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, dans un sens évidemment évangélique du terme, la question de l'écologie intégrale, de l'accueil des étrangers et de la transmission aux générations futures. Je dirais que ce sont des affirmations pieuses et qu'on attend évidemment de l'Église, mais qui n'entrent pas dans un débat évidemment et qui demeurent parfaitement neutres par rapport au bilan que l'on pourrait aussi, sur lesquels on pourrait avoir des jugements, des indications et des orientations à donner.
Le mois dernier, la ville de Bayonne avait invité les représentants des différentes religions en France à un débat sur la laïcité. Vous n'y avez pas participé ?
Non. Non, d'abord parce que j'étais pris ce jour-là. Et tous les évêques, d'ailleurs, en fait, c'est Monsieur de Moulin-Beaufort qui avait été invité, puisque c'était un échelon national.
Mais vous étiez au courant quand même.
Ah, bien sûr, j'étais au courant, c'est évident. Mais moi, je ne pouvais pas y participer. Et c'est pourquoi Monsieur de Moulin-Beaufort, ne pouvant pas le faire non plus, aucun évêque du Conseil permanent qui aurait pu représenter la Conférence des évêques de France, de même qu'il y avait le président de la Fédération protestante de France, qui avait le grand rabbin de France, etc. Et donc, ils ont envoyé comme délégué l'aumônier des parlementaires.
Et vous n'avez pas envoyé d'un délégué du diocèse pour...
Non, il n'y avait pas de délégué envoyé. C'était un niveau national. C'est pas un niveau. C'était la reprise à un niveau national.
Mais je pense que le diocèse aurait pu être représenté pour moi.
Oui, mais non, c'était pas nécessaire. On n'était pas invité. C'était sur invitation. Hein. Et on n'y a pas été invité particulièrement. C'était la transposition à niveau national de ce qui s'était passé à niveau local l'an dernier avec le curé de la paroisse de Saint-Vincent de Paul, Bayonne.
Quel conseil donneriez-vous aux catholiques à l'approche des élections ? Faut-il aller voter ? Oui, bien sûr.
Oui, je pense qu'il faut aller voter. Ça fait partie du devoir, du droit et du devoir des citoyens à pareille échéance. Peut-être de se documenter sur les programmes des candidats pour voir quels sont ceux qui, en pesant les éléments des programmes, quels sont ceux qui correspondent le plus à notre attente de catholique. Il n'y a pas de vote catholique de toute façon, hein, mais il y a des catholiques qui votent et qui votent en fonction de principes qui sont ceux de la doctrine sociale de l'Église. Hein.
Alors on le voit bien, aucun programme, aucun candidat ne correspond complètement, ce serait trop
jamais,
simple.
Jamais.
L'Église parle aussi du moindre mal, Benoît XVI parlait de principes non négociables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut justement voter pour quelqu'un, même si ça ne correspond pas complètement à
ces principes
chrétiennes ou...
L'avantage d'avoir défini des principes non négociables, qui sont ceux évidemment du respect de la vie, hein, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, qui sont ceux de la protection, de la sauvegarde de la famille, fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme, et de la libre éducation que les parents peuvent donner à leurs enfants, selon leurs valeurs et leurs principes, restent des principes de base, hein, on le comprend bien, puisque Jean-Paul II disait le droit à la vie est le fondement de tous les droits humains, ce qui est rappelé sans cesse par les papes, y compris par le pape François, et ô combien, que la famille est la cellule de base de la société, et que l'éducation est le moyen de transmettre et d'assurer un avenir à la société dans laquelle nous sommes. Donc je pense que ces trois principes qui méritent en effet qui apportent une grille de lecture, en tout cas, de tous les programmes qui nous sont présentés.
Faut-il comptabiliser le vote blanc, selon vous ?
Oui, je pense que ce serait bien. Je pense que ce serait bien. On ne peut pas voter, évidemment, les abstentions. On ne peut pas comptabiliser les abstentions, même si ça indique quand même quelque chose de
mais
l'intérêt.
Mais ça risque d'être quand même le grand gagnant encore de ces élections.
Les abstentions, peut-être, oui. Mais c'est malheureux. Ça prouve qu'il y a un dégoût pour la politique et que je pense que les hommes politiques devraient en prendre acte.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, nous parlerons du diocèse. Dans la troisième partie, nous parlerons des finances du diocèse et ensuite de la vie du diocèse.
Radio La Pourdire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, c'est en cette période des rameaux et de Pâques qui approche, le diocèse en profite pour faire une grande campagne pour appeler à donner aux deniers de l'Église. C'est vrai que c'est important chaque année de le rappeler. Vous allez bientôt d'ailleurs donner une conférence de presse à ce sujet. Quel est le bilan de l'an dernier? Je crois que le niveau est à peu près revenu à celui de 2019, puisqu'il y a eu une hausse en 2020. J'imagine que vous vous réjouissez que les gens continuent à donner, mais qu'il faut toujours appeler à donner aux deniers de l'Église.
Oui, il faut toujours rappeler évidemment aux fidèles qui n'en sont pas toujours conscients que l'Église ne vit d'aucune subvention qui viendrait du Vatican ou de l'État, surtout en régime de séparation des Églises et de l'État, et que les finances du Vatican sont plutôt d'ailleurs déficitaires, comme on le sait, et qui sont aidées par les autres Églises nationales, si je puis dire, pour les œuvres de charité du Vatican, qui en plus subvient aux besoins des églises les plus pauvres dans le monde. Donc il y a une espèce de solidarité qui se fait plutôt dans le sens des diocèses vers le Vatican que l'inverse. En tout cas pour nos diocèses à nous, de pays dits riches. Donc voilà, il faut savoir que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles. Et donc c'est toujours un appel à la générosité pour que l'Église puisse continuer à accomplir sa mission. Et Dieu sait si sa mission s'étend bien au-delà des pratiquants, des messalisants du dimanche, c'est-à-dire de ceux qui vont à la messe tous les dimanches, qui sont, comme on le sait, une infime minorité, non seulement des Français, mais aussi des catholiques de France. Donc l'Église est là aussi aux grandes articulations de la vie, et les Français savent encore bénéficier et recourir en tout cas au service de l'Église à un moment ou un autre de leur existence, et c'est pourquoi nous les appelons à ne pas oublier que nous ne vivons que de leur générosité.
Combien y a-t-il de donateurs dans le diocèse pour le denier de l'Église?
Alors là, je n'ai pas révisé mes notes, mais il n'y en a pas assez. Le nombre de donateurs est toujours en décroissance, même si
le montant se maintient
à peu près, parce que les donateurs sont plus généreux. Donc ça, il faut quand même le souligner, ce qui est quand même une chose très importante. Mais le nombre de donateurs décroît. Pourquoi il décroît? Essentiellement à cause de la pyramide des âges, parce que les donateurs les plus traditionnels sont ceux qui sont les plus âgés, et qui, au bout de la chaîne, finissent par ne plus donner parce qu'ils meurent, tout simplement. Et que les jeunes générations, y compris ceux qui sont très engagés dans la vie de l'Église, n'ont pas le sens qu'avaient leurs aînés de concourir à la mission de l'Église par le denier de l'Église. Donc c'est un appel aux jeunes générations à les sensibiliser sur ce devoir de justice, je dirais, de solidarité, que d'aider l'Église à accomplir sa mission.
Est-ce que la pandémie a eu un impact financier sur la comptabilité des paroisses, puisqu'il y a eu moins de messes, de quêtes, de mariages,
d'obsèques? La comptabilité des paroisses a été impactée par la pandémie, même si finalement ça n'a pas été aussi catastrophique qu'on aurait pu l'escompter. En particulier à travers les quêtes de toutes les messes qui n'ont jamais eu lieu, parce que...
Et les kermesses aussi qui ont été supprimées.
Les kermesses qui ne se sont pas réunies, là où il y en a encore. Les casuels des sacrements qui n'ont pas été célébrés.
Certains donateurs ne veulent plus donner en raison des événements de pédocriminalité qui ont touché l'Église, et ils ont peur que justement leur argent soit utilisé pour indemniser les victimes. Est-ce que vous pouvez clarifier ce point?
Voilà, on a eu plusieurs occasions déjà de le clarifier, mais je veux bien le clarifier à nouveau. Il est évident que les dons courants qui sont dédiés à la mission de l'Église, de manière ordinaire, ne seront pas du tout pris en compte pour l'indemnisation des victimes. Comme vous le savez, nous avons, dans le diocèse, pris la décision de prélever un pourcentage sur les cessions d'immeubles diocésains de l'année 2020 de l'année 2021, plus exactement, pour pouvoir abonder ce fameux fonds CELAM, qui servira à l'institution nationale indépendante de reconnaissance et de réparation que les évêques de France ont souhaité mettre en place pour aider à l'indemnisation des victimes qui le demanderont. Donc, en prenant ce pourcentage, ce que nous faisons habituellement, par exemple pour le Fonds commun de solidarité, afin d'aider des paroisses qui ont moins de moyens à entretenir leurs bâtiments ou faire des travaux urgents, eh bien, nous prenons un pourcentage et de cette manière, en tablant sur la plus-value de l'immobilier depuis un certain nombre d'années, eh bien, nous ne lésons pas les donateurs qui ont légué, par exemple, un bâtiment, etc., que nous utilisons déjà depuis des décennies.
Donc le don au denier sert vraiment essentiellement
exclusivement
à rémunérer les prêtres,
au traitement des prêtres
et les
et
salariés.
Au salaire des employés de l'administration du diocèse ou de la pastorale.
En même temps que cette campagne pour le denier de l'Église, une campagne de promotion est lancée pour la revue diocésaine, la revue Notre Église. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, puisque beaucoup ne la connaissent pas, et à quoi sert cette revue mensuelle du diocèse ?
Alors la revue mensuelle du diocèse, qui existe maintenant depuis pas mal d'années.
10 ans, je crois.
Au moins 10 ans, oui, puisqu'on a déjà, je pense, fêté le 10e anniversaire, est une revue qui veut être à la fois un outil de communion entre les différentes réalités du diocèse. Donc il y a beaucoup de reportages sur la vie du diocèse, sur la vie des paroisses, sur la vie des mouvements qui sont proposés. Il y a aussi des articles de fond qui peuvent aider aussi à la formation fondamentale des fidèles. Il y a aussi évidemment des articles qui rendent compte de la vie de l'Église en France ou de l'Église universelle. Voilà. Donc je ne peux évidemment qu'encourager cette campagne de promotion de la revue diocésaine parce qu'il est évident que nous manquons
d'abonnés
payants, hein, sachant qu'évidemment les prêtres, les services reçoivent gratuitement ce mensuel diocésain, mais qu'il serait bon certainement qu'il y ait davantage d'abonnés qui ainsi participe davantage à la vie du diocèse.
Et aussi vos éditos et puis des textes officiels
qui sont importants
de suivre.
Parce que vous dites que ça existe depuis 10 ans, mais en fait, avant, il y avait le bulletin diocésain.
Oui, tout à fait. C'est la revue Notre Église mensuelle qui existe depuis 10 ans.
Il y a toujours eu un bulletin.
Suite, qui a pris la suite d'un bulletin diocésain, évidemment, qui existe depuis plus que des décennies.
Alors, Monseigneur Rayet, puisque nous parlons finance, nous allons un peu parler aussi immobilier dans le diocèse. Où en est la création de la maison diocésaine Montpensier à Pau ? Alors, vous aviez déjà parlé donc de ce legs des jésuites à Pau, qui va devenir donc la maison diocésaine pour le Béarn.
C'est ça, hein, une maison diocésaine qui ne se contentera pas de reproduire ce qu'il se déroulait jusqu'à présent au centre diocésain du Béarn, au CDB, mais qui voudrait être une maison aussi qui soit un poumon spirituel pour l'agglomération paloise et le Béarn, et aussi un pôle missionnaire. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons évidemment réfléchi à une communauté qui viendra animer spirituellement cette nouvelle maison diocésaine, Montpensier, si on peut dire, c'est la rue Montpensier, à Pau.
Ça va garder le même nom ?
Non, qu'on appellera la maison Saint-François-Xavier. Il fallait honorer l'origine ou l'héritage jésuite de cette maison. Saint-François-Xavier est un des premiers compagnons de Saint-Ignace de Loyola, comme on le sait, et puis qui a affaire avec notre diocèse, tant qu'à faire, puisque sa famille paternelle est originaire de Jacques-Sus et a vécu à Saint-Jean-Pied-de-Port, en Basse-Navarre. Donc c'est l'occasion d'honorer aussi un jésuite originaire, pour une part, de notre diocèse.
Donc vous nous annoncez un scoop, le nom de cette maison.
Alors je pensais que c'était déjà su, mais voilà. Je suis content de l'annoncer aujourd'hui. Et donc cette maison a pour vocation d'abriter toutes les activités pastorales, des services, des mouvements, des associations de fidèles dans le Béarn, mais aussi peut-être d'accueillir un foyer d'étudiants, d'accueillir donc une communauté religieuse qui assurera un pôle d'animation spirituelle et qui sera au service aussi de l'annonce de l'Évangile dans notre grande agglomération paloise.
Y a-t-il d'autres projets, d'autres chantiers diocésains ? On entend parler peut-être de la vente de la maison diocésaine à Bayonne. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ?
Ce n'est pas d'abord la vente de la maison diocésaine, mais le projet auquel nous réfléchissons depuis quelques années, c'est la restructuration de la maison diocésaine, pour qu'elle soit davantage une maison diocésaine. Hein, comme on le sait, cette maison est devenue, pour une grande part, une maison où sont accueillis sans doute encore des groupes du diocèse, de mouvements, d'associations, de services, mais est surtout le lieu où sont hébergés et accueillis des groupes non confessionnels. Ce qui fait que ça a perdu un peu, pour une part, sa dimension diocésaine de rencontre entre les différentes réalités du diocèse et un lieu vraiment d'église, si vous voulez, bien référencé. C'est la raison pour laquelle la réflexion a commencé avec la nécessité aussi d'avoir dans nos structures diocésaines un lieu d'accueil et d'hébergement pour les prêtres arrivés à l'âge de la retraite, 75 ans, mais qui n'ont pas de chez soi pour se retirer ou qui ne sont évidemment pas prêts à entrer dans un EHPAD. Et donc nous devons aussi réfléchir à des petits appartements dans des structures communautaires, collectives, comme une maison diocésaine, pour accueillir ces prêtres retirés. Alors, petit à petit, bon an, mal an, l'idée a fait jour d'avoir aussi une maison diocésaine qui réponde à cette vocation que je précisais il y a un instant. C'est la raison pour laquelle plusieurs options sont aujourd'hui possibles. La première option, ce serait de restructurer l'existant. Mais c'est très difficile, car comme vous le savez, une maison qui a été construite selon les principes des années 70 en béton est très difficile à restructurer. Donc c'est peut-être...
Il y a beaucoup d'amiante aussi.
Aussi, oui. Donc cette maison aujourd'hui aurait besoin de frais énormes pour être vraiment remise aux normes et en état. Donc, nous pensons à une deuxième option qui serait de reconstruire une nouvelle maison diocésaine qui réponde mieux au cahier des charges que nous nous sommes donnés sur une partie du terrain existant. Mais pour le financer, il faudrait vendre l'autre partie de manière à dégager une certaine trésorerie. La troisième possibilité, ce serait de construire un autre lieu en vendant tout ou partie de la parcelle actuelle, et nous avons jeté notre dévolu actuellement sur le site de la maison Saint-Léon, dont l'association propriétaire a émis le principe de l'apporter à notre association immobilière Saint-Louis.
Au quartier Marac, alors, à Bayonne.
Quartier Marac, voilà. Donc, qui reste quand même au centre-ville, hein, même si ce n'est pas dans le quartier historique de la cathédrale, et qui permettrait d'accueillir toutes les activités potentielles d'une maison diocésaine qui soit aussi un lieu de communion diocésaine, un lieu spirituel et pourquoi pas un lieu missionnaire. L'idée serait même peut-être, alors ça, il y aura peut-être une consultation qui se fera et on en a déjà parlé au conseil presbytéral, de transférer là-bas l'évêché et la curie.
Donc vous vendriez l'évêché actuel ?
Je ne vendrais pas l'évêché actuel car c'est quand même un patrimoine important. Une partie serait toujours au service de l'Église, et puis d'autres parties seraient louées, de manière à conserver, évidemment.
Donc vous garderiez quand même l'évêché dans l'association diocésaine.
Bien sûr, évidemment.
Affaire à suivre, donc, Mgr Marcaillé. Dans quelques instants, nous allons parler des événements dans la vie du diocèse.
Radio La Bourdie.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Marcaillé. Alors, le 20 mars, vous avez célébré une messe à la cathédrale de Bayonne pour les victimes des abus sexuels, des violences sexuelles dans l'Église, et vous avez même lu, je crois, une prière de réparation.
Voilà, donc nous avons commencé par un chapelet qui a précédé la messe, qui était animé par les membres de la cellule d'écoute des victimes, et puis après l'homélie, sur laquelle j'ai évidemment commenté les textes de la parole de Dieu, mais en lien avec cette journée mémorielle, pour les victimes d'abus sexuels dans l'Église, j'ai lu une prière de réparation à genoux devant l'autel pour bien marquer cette journée mémorielle.
Le 12 mars, on parlait de Jacsu tout à l'heure, les jeunes du diocèse se sont retrouvés justement dans ce village du Pays Basque et ils ont marché jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous étiez présent à cette journée, Mgr Hayet. Quel message est-ce que vous avez voulu délivrer aux jeunes lors de cette journée qui était sous le signe de la mission ?
Alors le message que moi j'ai donné, c'était plus particulièrement sur le carême, hein. Mais je crois que c'était une belle image par ces jeunes qui ont répondu de manière assez nombreuse, puisqu'on était un peu plus de 110, de tout le diocèse, une belle image de l'Église en marche. Hein. Il y avait l'évêque, il y avait des prêtres, il y avait des consacrés, il y avait tous ces fidèles laïcs que sont les jeunes et leurs animateurs, et qui ont marché, donc il y a eu un bel esprit de communion, une grande joie et de simplicité dans les relations, et puis une belle montée spirituelle vers Saint-Jean-Pied-de-Port.
Le 5 mars dernier, à Sainte-Bernadette à Pau, vous avez appelé les catéchumènes, l'appel décisif. Alors, combien sont-ils cette année?
Ils sont une trentaine, je crois que c'est 33 exactement, plutôt jeunes, hommes et femmes, qui donc vont être baptisés, confirmés, et qui, pour certains, vont faire leur première communion.
Le 30 mars prochain à Orthès, vous allez envoyer en mission l'équipe diocésaine chargée de l'œcuménisme. Alors c'est un service diocésain qui a été formé récemment, ce service diocésain.
C'est un service diocésain qui a été reconstitué récemment, avec deux têtes de pont, si je puis dire. Une au Béarn, Isabelle Pommel, une au Pays Basque, qui est l'abbé Gilbert Wangrawa, et qui sont chargés de concilier cette équipe avec trois personnes de chaque côté. Du diocèse, et qui va enfin, parce que ça a été reporté souvent à cause de la pandémie, se retrouver à Orthès pour que je les envoie officiellement en mission pour ce grand œuvre de l'engagement œcuménique de l'Église.
Le 15 mars, vous avez procédé à la bénédiction d'un nouveau centre de soins de l'Ordre de Malte à Bayonne.
Voilà, rue de Luc, un bâtiment qui appartient au diocèse, qui a longtemps abrité le secours catholique, mais dont nous n'avions pas la possibilité de la mettre en état, que nous avons confié à l'Ordre de Malte par un bail emphytéotique et qui a pris en charge la transformation de ce local afin d'en faire un centre de soins pour accueillir en particulier les SDF et les personnes en situation de précarité. C'est une très belle œuvre auquel participe non seulement le diocèse, mais aussi les conférences Saint-Vincent de Paul de Bayonne et de Biarritz.
Alors en ce moment, dans notre diocèse, nous sommes engagés dans cette démarche synodale à l'appel du pape François dans le monde entier. Vous avez déjà des retours, des réunions qui ont lieu un peu partout dans les paroisses, sachant que ça se termine le 4 juin.
Alors les retours sont pas encore très nombreux, même s'il y en a déjà. Et en ce moment, on est dans la phase de démarche synodale dans les paroisses. Je sais que ça se met en place progressivement. Nous en avons évidemment des échos. Et très prochainement, nous réunirons le secrétaire du synode pour faire le point.
Le but de cette démarche, c'est à la fois de rendre compte de ce qui se passe dans les paroisses, et puis ça sera après synthétisé, envoyé à Rome.
Je crois qu'il ne faut pas attendre, comme le dit le pape François, la production de grands documents. Je pense que l'essentiel, et c'est ainsi que la manière dont ça se vit d'ailleurs dans les paroisses, c'est vraiment un lieu de communion et d'écoute mutuelle entre les pasteurs et les fidèles, et entre les fidèles eux-mêmes, qui peuvent apporter des sensibilités différentes, qui peuvent porter des projets différents, mais qui finalement ne se rencontrent pas. Et donc si cette démarche synodale peut induire une certaine culture synodale de la rencontre entre fidèles très différents, pour les inviter à participer à la mission d'annoncer l'Évangile, car c'est ça le but, évidemment, de la vie de l'Église et donc de la démarche synodale, eh bien, ce sera déjà un grand pas.
Donc ce n'est pas seulement les rapports qu'on vous fera, c'est aussi la démarche au sein d'une paroisse, au sein d'un mouvement.
C'est un modus vivendi. C'est une manière de vivre la vie de l'Église, et je pense que ça peut faire bouger beaucoup de choses.
Le 4 juin, la veille de Pentecôte, donc ça sera la clôture de la démarche synodale, il y aura un rassemblement à Bayonne, ce qu'on appelait avant le diocèse en fait, c'est un peu ça?
Oui, mais qui sera un peu plus ciblé sur la démarche synodale.
Voilà, et puis là, il y aura, je crois, la confirmation des adultes du diocèse, et il y aura aussi, je crois, l'envoi en mission du parcours Cléophas,
voilà,
c'est ça?
Tout ça se fera au cours d'une...
Donc c'est une date importante dans la vie diocésaine.
Très importante à bien inscrire dans les agendas.
Donc le 4 juin, samedi 4 juin. Pour terminer, un mot sur la messe chrismale que vous allez célébrer le mardi saint 12 avril à 18h à la cathédrale de l'Escar. Alors rappelez-nous en quelques mots l'importance de la messe chrismale.
La messe chrismale, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont oints, qui sont chrismés, pour prendre le mot grec, qui veut dire chrisma, onction, par la grâce du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Donc c'est un beau rassemblement de l'ensemble du peuple de Dieu dans ses divers ministères et charismes et états de vie, et au cours de laquelle, en entrant dans le triduum pascal, ou avant d'entrer dans le triduum pascal, l'évêque va consacrer le Saint-Crème et bénir l'huile des malades et l'huile des catéchumènes qui serviront tout au long de l'année pour les sacrements de l'Église.
Donc rendez-vous mardi saint, le 12 avril à 18h à la cathédrale de l'Escar, une célébration bien sûr qui sera retransmise en direct sur nos ondes. Et pour terminer, Monseigneur Hayet, je crois que Pâques cette année aura une saveur particulière pour vous le 17 avril.
Oui, parce que le 17 avril, j'aurai 65 ans. Donc c'est un cap important dans ma vie d'homme, de prêtre et de diacre, puisque cette année, et d'évêque, pardon, puisque cette année je célébrerai même le 40e anniversaire de mon ordination sacerdotale.
Avec un peu d'avance, nous souhaitons un bon anniversaire, une très bonne fête de Pâques. Merci à tous les auditeurs de Radio Présence, de Radio Lapourdie. Merci à vous, Violaine Ricourt-Dumas. Je rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet.